Amis, frères et sœurs, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent en France ou à l'étranger. Alors c'est le temps de l'été avec cette nouvelle liturgie que nous conservons tout le mois d'août, comme nous l'avons fait aussi pendant le mois de juillet. Que ce culte soit un moment de paix et de ressourcement, de joie et de communion. Nous prendrons la liturgie qui se situe dans le recueil Le Psautier français. J'annoncerai chaque tête de chapitre, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas bien le déroulement de notre culte et cela permet de se repérer. Donc je vous invite à vous lever et nous chanterons ce premier répond « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, tu es vie, tu nous donnes et tu nous conserves la vie. Nous te louons car tu es lumière, tu nous éclaires et tu nous réjouis par ta lumière. Nous te louons car tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons, Éternel, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons, Éternel, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans cet amour. Oui, nous te louons. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le cantique dans le psautier français, le psaume 23, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. C'est un psaume avec un rythme particulier. Aussi, nous sommes invités à suivre notre organiste. Et sachez qu'il y aura une respiration entre les mesures vers pâturage et au long des eaux sur les trois strophes. Je vous remercie.
Tu te tiens
prenez place. Écoutons maintenant comment Dieu veut être servi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, renvoie libres tous ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors, ta lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra, « Me voici ». Et nous prenons le répond qui s'intitule « Parle par le Seigneur ». Je vous invite à la prière. Prenons le temps de dire à Dieu tout ce qui nous sépare de lui, des autres et de nous-mêmes. De notre indifférence et de notre ingratitude en ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Oui, nous t'appelons, viens à notre aide, pardonne-nous. Amen. Et nous prenons le répond qui s'intitule « J'aime mon Dieu car il entend ma voix ». Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance et nous prendrons le répond intitulé « Oh, que ces choses belles » et qui commence par « Combien grande est ta gloire ?» Restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ et je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Et nous chantons « Grand Dieu, nous te bénissons ». Prenez place. Et au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre la parole que Dieu nous adresse pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Éternel, nous te remercions de nous réunir en ta présence et de prendre patiemment le temps de nous révéler ton amour. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous lirons un extrait de l'Évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, cette histoire que nous venons de lire ou d'entendre aurait bien pu se trouver dans les colonnes d'un quotidien à sensation avec ce titre « Un juge insensible obligé de capituler devant une veuve opiniâtre ». Mais c'est tout de même un récit audacieux que cette parabole racontée par Jésus à ses disciples. En effet, Jésus met en scène deux personnes dont les relations sont plutôt tendues. Un juge inique, autrement dit injuste, qui de plus ne craint pas Dieu et n'a aucun égard pour personne. En face de lui, cette femme veuve qui lui réclame justice contre la partie adverse. Le juge refuse pendant une longue période, la femme persévère dans sa demande et contre toute attente, il accède à la demande de celle-ci et finit par lui rendre justice pour se débarrasser et ne plus être importunée. C'est un récit audacieux en ce sens que si cette parabole est là pour illustrer le thème de la prière, si l'on transpose les personnages de la parabole sur ce qu'ils peuvent représenter dans la vie courante, alors ce juge dont il est question et à qui la femme adresse sa requête semble bien être Dieu. Et la femme semble bien être la figure du ou des disciples, ou en tout cas des croyants. Jésus dit cette parabole à ses disciples pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Mais pourquoi ou de quoi ne pas se décourager? Alors peut-être doivent-ils ne pas se décourager par rapport à deux choses. La première, c'est le fait de ne pas se lasser pour que justice soit faite, parce que si dans la parabole, la justice rendue par le juge inique, voire cynique, se fait attendre, alors, par opposition, à plus forte raison, Dieu, par compassion, répondra à la prière des siens. Il fera justice à ses élus encore plus vite que le juge inique. Deuxièmement, le retard que peut prendre l'avènement du royaume de Dieu, c'est peut-être cela la deuxième chose par rapport à laquelle il ne faut pas se décourager. En effet, quelques versets précédents, les pharisiens ont posé une question importante à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Et Jésus leur répond que le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dit pas qu'il est ici ou qu'il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais Jésus semble préparer les pharisiens, mais également ses disciples, à ce que cet établissement soit différé dans le temps. Le royaume de Dieu est en même temps déjà là et pas encore là. Il faut apprendre à vivre dans cette tension. Et la parabole est plus qu'une exhortation à la prière persévérante, parce que la conclusion est celle-ci. La vraie question qui laisse l'auditeur ou le lecteur de cette parabole sur sa faim, c'est cette question. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous propose de revenir sur la signification des deux personnages de la parabole, d'abord la veuve, ensuite le juge. Cette femme est le symbole du dénuement et de l'obstination. Elle s'évertue patiemment à réitérer sa demande d'obtenir réparation. Et en ce temps-là, une veuve n'a ni pouvoir ni protection sociale. Elle vit de l'assistance généreuse des autres. Elle ne peut donc exercer aucune pression sur personne. Elle représente ici tous les laissés pour compte. Et toutefois, elle a le droit de demander réparation à la justice s'il y a besoin. Elle peut être entendue, elle peut être défendue. Et c'est pour cela qu'elle insiste, car elle est dans son droit. D'ailleurs, le juge le sait, puisque de guerre lasse, il lui rend justice afin qu'elle ne vienne plus l'importuner. Et finalement, cette femme apparemment fragile ne l'est pas tant que cela. Elle oppose au juge une ténacité déterminée et tranquille. Cette veuve parle sans doute non seulement à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. Elle représente d'une certaine façon chacun de nous dans sa fragilité, sa pauvreté intérieure, avec ses blessures personnelles infligées par les circonstances de la vie et le découragement qui va avec. Elle parle à notre cœur, car peut-être qu'aujourd'hui même, cette histoire résonne en chacun et rejoint l'un ou l'une d'entre nous pour je ne sais quelle raison ou je ne sais quelle injustice profonde subie dans sa propre vie et enfouie depuis longtemps, sans toutefois obtenir réparation sous aucune forme. Cette femme parle à notre cœur encore et toujours, car nous savons bien que l'injustice existe encore et toujours, et que les différences sociales existent toujours, et qu'il y a toujours autant de rejetés, d'indigents et même d'esclaves dans tous les domaines au cœur d'une société comme la nôtre, qui pourtant ne cesse de déverser son opulence de façon indécente. Alors il est bien difficile de garder ce courage, de demeurer persévérant, de ne pas lâcher prise, de ne pas perdre l'espoir ni la foi, de ne pas baisser les bras tant que réparation n'est pas obtenue. Cela peut durer longtemps. Quant au personnage du juge, c'est tout de même un homme dépourvu de valeurs, tant morales que religieuses. Il ne craint pas Dieu, il n'a d'égard pour personne. Il représente tout ce qui est exécrable, le pouvoir méprisant. C'est une sorte de despote, de tyran. En tout cas, c'est un personnage bien embarrassant. De qui Jésus est-il en train de parler? Car dans les paraboles, les personnages qui représentent l'autorité désignent principalement Dieu. Alors si ce juge odieux symbolise Dieu, alors de quel Dieu s'agit-il? S'agit-il d'un Dieu tout-puissant qui aurait le droit de vie et de mort sur ses créatures, qui traiterait les hommes et les femmes comme des marionnettes? Il n'y a pas encore si longtemps, on nous a présenté un Dieu coléreux qui punit les fautifs, un Dieu souvent jaloux et dont on a réduit les commandements à une somme de lois morales, mais comme étant le Dieu de la révélation. Ah, bien sûr, on trouve des traces de ce Dieu dans des passages de la Bible, mais ce n'est pas l'essentiel de la Bible. Alors, en marchant sur ce chemin audacieux de la comparaison de Dieu avec ce juge inique, Jésus n'est-il pas en train de dire à ses disciples, mais aussi aux pharisiens qui ne sont pas loin, qu'on ne peut plus parler de Dieu de cette façon? Le juge inique symbolise un Dieu que les détenteurs de la vérité imposent au peuple. Ces personnes se positionnent comme les propriétaires de Dieu et en profitent pour asservir les autres à leur vérité, les laissant dans l'ignorance, les empêchant d'avoir un regard critique sur cette présentation de Dieu. Et Jésus-Christ va se positionner tout différemment, comme l'écrivait Raphaël Picon, alors rédacteur en chef d'Évangile et Liberté, dans l'un de ses éditoriaux de août-septembre 2012. Je cite « Jésus-Christ est l'incarnation la plus spectaculaire qui soit du rêve de Dieu pour le monde. Une humanité libre, affranchie de toute forme d'oppression, par ses actes et ses paroles, Jésus irradie la présence de ce Dieu qui rompt les équilibres mortifères et déjoue les fatalités. La proclamation de sa prédication nous bouleverse encore et libère en chacun une énergie créatrice qui fait de nous des passionnés de la liberté. » Fin de citation. Alors, comment recevoir un tel texte aujourd'hui dans notre contexte actuel? Depuis plusieurs mois, le coronavirus infecte le corps et la santé de nombreuses personnes à travers le monde, et dans notre pays bien sûr, mais il infecte aussi tous les esprits et les comportements. Pour lutter contre cette pandémie qui reprend du terrain insidieusement, les nouvelles sont contradictoires. Il faut le sens du discernement bien aiguisé pour faire la part des choses. La situation économique n'est pas brillante, de nouveaux pauvres font leur apparition depuis plusieurs mois dans les différents services d'entraide, juste pour pouvoir se nourrir parce qu'elles ont perdu leur travail. Pendant les semaines de confinement, les médias se sont relayés pour partager, proposer, poser même les bases d'un monde d'après, selon l'expression consacrée. Mais depuis le déconfinement, ce monde d'après peine à voir le jour. Et s'il doit voir le jour, immanquablement, il ne faudrait pas que se mettent en place des inégalités encore plus grandes que par le passé. Ce sont les pauvres, toujours les pauvres, c'est-à-dire tous les laissés pour compte, qui paient en premier les pots cassés. Le monde des petits et des oubliés de toute catégorie a un besoin urgent de notre engagement et de notre témoignage. Et je m'adresse en premier aux chrétiens croyants que nous sommes. Puisqu'aujourd'hui encore, nous mettons notre confiance en Dieu et en particulier dans le Dieu de Jésus-Christ, nous avons à persévérer dans notre prière les uns pour les autres, mais les uns avec les autres, afin de rester attentifs, pour ne pas dire sur le qui-vive, à la manière d'une sentinelle, aux besoins les plus élémentaires et de veiller inlassablement à ce que la justice soit appliquée et respectée dans tous les domaines et pour tout le monde et non pour le confort de quelques-uns. Il faut persévérer à y travailler sans nous dérober à nos responsabilités et en inventant de nouvelles solidarités pérennes malgré le port du masque et la distanciation physique. Il y a fort à faire parce que le monde est à vif et que le bateau de notre humanité prend l'eau de tous les côtés. La prière soutient notre foi, qui devient alors une course d'endurance, c'est-à-dire que nous devons même tenir sur la durée, car la question demeure. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et je rajouterai aussi dans notre cœur. Si Jésus-Christ est venu pour faire changer les êtres humains du point de vue, de leur point de vue sur Dieu, en bannissant les vieilles croyances qui ont aliéné des hommes, au lieu de les libérer et de les ouvrir à la présence de Dieu en eux, il révèle, et je cite encore Raphaël Picon dans ce même éditorial, il révèle notamment que Dieu n'est la propriété de personne, pas même de Jésus. L'action de Dieu dépasse le christianisme et toutes ses églises. Dieu est la sève libératrice qui irrigue toutes les religions, les philosophies, les sagesses du monde. Fin de citation. Alors, c'est dans le profond de notre être que nous trouverons la foi qui nous porte. Et plus nous rencontrerons des autres chercheurs de Dieu, des autres amoureux des humains, de toute religion, de toute confession, de tout humanisme. Et plus nous découvrirons que c'est en profondeur que les distances raccourcissent, comme le disait Paul Ricoeur. Alors, nous sommes invités par cette parabole d'aujourd'hui, avec les charismes que sont les nôtres, mais aussi avec ceux qui sont à rechercher chez les autres. Nous sommes invités à dire avec l'évangéliste Jean dans l'une de ses lettres, « L'amour parfait bannit la crainte », mais aussi avec le théologien Maurice Bellet, « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Amen. dans le recueil Louanges et prières, je vais vous inviter à prendre le numéro 213 et de ce cantique nous chanterons les trois strophes. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors, c'est maintenant le moment de quelques annonces qui seront assez courtes. Je vous rappelle simplement que nous nous rencontrons le mercredi de 12h30 à 13h30 pour une pause spirituelle que j'anime en ce moment pendant le mois d'août. Donc si vous le désirez, eh bien, le temple est ouvert à ce moment-là et nous prenons le temps de découvrir un texte et de prier ensemble. Je voudrais remercier Aurélien Peter qui nous accompagne aujourd'hui pour ce culte. Merci pour le choix de ses musiques et aussi pour ses improvisations. C'est l'été, j'en conviens, il fait chaud, j'en suis sûre. Maintenant, c'est tout de même le moment de l'offrande. Ce petit geste de rien, mais qui peut aider beaucoup, votre geste de solidarité permettra justement à notre Église de continuer sa mission et d'aider le service d'entraide à continuer la sienne. Prions ensemble les uns pour les autres. Éternel, Dieu de la vie, tu nous appelles à l'unité pour que nous vivions cette unité dans l'harmonie. Et pourtant, nous sommes divisés entre les religions, entre les riches et les pauvres. Nous te le demandons. Viens nous aider à briser les barrières que nous avons nous-mêmes élevées. Et par tous les moyens, délivre-nous de cet orgueil et de cet égoïsme qui gangrène les relations, tant en société qu'en Église. Nous te présentons toutes les situations de souffrance à travers le monde, autour de nous, celles que nous connaissons parce qu'ils touchent nos proches, celles que nous entendons à travers les médias. Permet que nous ne restions pas anesthésiés devant tout ce que nous entendons et voyons. Par la puissance de ton esprit, donne-nous la guérison qui vient de toi et qui permettra de construire de nouvelles solidarités. Mais s'il te plaît, augmente notre foi, mais également notre amour et notre espérance. Nous te le demandons simplement, mais profondément, et nous allons te le redemander de cette façon en disant cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Et en conclusion de ce culte, nous chanterons le dernier répond qui se trouve à la fin de la liturgie et qui s'intitule « Béni, ô Dieu, nos routes ». Ensuite, Nous sommes invités à écouter le dernier morceau d'orgue, si vous en avez le temps, et à sortir les uns après les autres, selon cette distanciation physique recommandée.